les podcasts de Radio Vatican.
Un nouveau plan d'action de la Commission européenne pour aider l'Italie submergée par l'afflux de migrants. Il sera présenté ce jeudi à Tallinn, en Estonie, lors d'une réunion informelle des ministres de l'Intérieur des pays de l'UE. Ce plan prévoit notamment l'octroi d'enveloppes budgétaires à l'Italie et à la Libye. Et bien, c'est justement cette collaboration de l'UE avec la Libye que dénonce Amnesty International dans un rapport publié ce 6 juillet. Et c'est un véritable réquisitoire que dresse l'ONG pour qui l'UE tourne le dos aux migrants et aux réfugiés en délaissant les opérations de recherche et de sauvetage au profit d'accords dangereux avec la Libye, pays incontrôlable en proie à de terribles violences. Pour l'ONG, les naufrages de migrants en mer Méditerranée et les traitements inhumains qui leur sont infligés en Libye sont donc directement imputables à la politique migratoire défaillante de l'Europe. L'éclairage de Jean-François Dubost, responsable du programme Protection des populations pour Amnesty International France.
Alors, la politique européenne migratoire, on va dire, en Méditerranée a échoué simplement parce qu'elle a tourné le dos à la question du sauvetage des vies humaines. Aujourd'hui, la question principale, c'est combien va-t-il encore avoir de morts en Méditerranée dans les prochains mois? Nous sommes à 2000 morts depuis le début de l'année, avec un taux de mortalité qui n'a jamais été aussi élevé. Tout cela, en fait, est la conséquence du désengagement total ou quasi total de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, en termes d'opérations de recherche et de sauvetage en mer des migrants et des réfugiés. On se souvient qu'en 2015, il y avait eu une décision de renforcer ses moyens de sauvetage. Le taux de mortalité avait baissé, il y avait un grand nombre de vies sauvées. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus ces capacités de sauvetage. Elles ont été réorientées exclusivement sur la lutte contre les passeurs et les trafiquants, en mettant complètement de côté, en tournant le dos même à la question du sauvetage des vies en mer, de façon très concrète sur place. Et bien la coopération entre ces navires européens, mais également les ONG qui ont pris le relais, malheureusement, des États, cette coopération est très difficile parce que les uns et les autres ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Même si encore aujourd'hui certains navires européens effectuent des opérations de sauvetage, ce n'est plus leur mission principale et ça s'en ressent puisqu'il y a un grand nombre de personnes qui perdent la vie en mer.
Vous avez donc évoqué une attention plutôt vers les démantèlements de réseaux de passeurs et une collaboration avec les gardes-côtes libyens, et cela pose problème selon vous puisque vous affirmez que ces gardes-côtes libyens ont parfois une connivence avec les passeurs eux-mêmes.
Oui, il y a trois problèmes qui concernent la coopération de l'Union européenne, coopération très opérationnelle avec les gardes-côtes libyens et les autorités libyennes. Le premier problème plus général, c'est que la Libye n'est pas un État avec lequel on peut coopérer aujourd'hui en matière de protection des réfugiés et des migrants pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un enfer, il y a de la torture, la détention, parfois des exécutions, des abandons de personnes dans le désert, des tortures moyennant rançon, qui sont le fait à la fois de groupes privés mais également des autorités. Donc c'est ça la réalité du pouvoir libyen aujourd'hui, en tout cas pour le pouvoir qui est reconnu par la communauté internationale. Par ailleurs, cet État libyen n'a pas ratifié le texte principal de protection des réfugiés qui date de 1951 et qui est la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces gardes-côtes libyens, effectivement, ne sont pas en capacité aujourd'hui d'opérer correctement des opérations de sauvetage. Ça demande une grande maîtrise et une grande expérience d'aborder un navire surpeuplé, bondé, pour ne pas le faire chavirer. Aujourd'hui, les incidents que l'on a pu compiler grâce à des contacts avec les ONG sur place, c'est que ces gardes-côtes libyens arrivent à très forte vitesse, sont armés, font usage de leurs armes à feu, y compris contre les migrants et parfois contre certains navires des ONG. On est absolument dans une démarche totalement contraire aux valeurs et aux principes et aux règles du droit maritime et du sauvetage en mer. Donc on peut pas, il n'y a pas de confiance possible aujourd'hui dans la pratique des gardes-côtes libyens. Et puis enfin, le dernier élément que vous soulignez, effectivement, c'est qu'il y a, et les Nations Unies dans certains rapports d'état des lieux sur la situation en Libye l'affirment également et le démontrent, il y a certains responsables libyens, notamment gardes-côtes libyens, qui sont affiliés à ces bandes criminelles, ces trafiquants, ces responsables de la traite des êtres humains en Libye. Donc on ne voit pas du tout comment aujourd'hui l'Union européenne peut affirmer qu'il est possible, et même plus qu'affirmer, s'engager concrètement dans une coopération alors que l'état des lieux est catastrophique, à la fois du point de vue du respect de certaines règles et principes fondamentaux par les autorités libyennes, mais aussi surtout complètement catastrophique et même très dangereux, voire complètement meurtrier pour les réfugiés et les migrants qui se retrouvent piégés en Libye.
Alors, l'Union européenne doit-elle, selon vous, repenser cette collaboration avec la Libye? Et si oui, sur quels critères, sur quelles modalités?
Pour nous, le principe d'une coopération est bien sûr valable. Chaque ensemble d'État peut collaborer avec un autre. Mais il y a des conditions, comme vous le dites, qui sont indispensables. Ces conditions, c'est que on ne peut pas donner un blanc-seing à cette coopération avec la Libye, ni à la Libye, ni aux autorités libyennes. Il faut qu'il y ait des prérequis qui soient posés. Ces prérequis, c'est que d'abord qu'un certain nombre de textes soient ratifiés, signés par la Libye, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ensuite les systèmes de protection concrète des réfugiés et des migrants en Libye soient appliqués, mis en place, surveillés, contrôlés, y compris par des organes internationaux. On peut penser au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut également que cesse et soit mis fin à toutes les pratiques de torture, de détention arbitraire, de privation de nourriture, de mauvais traitements, d'esclavage, de travail forcé. À cette condition-là, on pourra ensuite commencer à envisager une coopération avec les autorités libyennes qui sont respectueuses de la vie humaine, de la dignité humaine et des textes internationaux. Le chemin est quand même très très long et on ne voit pas du tout comment, sur le court terme, l'Union européenne arriverait à un changement aussi radical de la politique et de la pratique des autorités libyennes et des autres groupes ayant autorité sur le territoire libyen en aussi peu de temps. Donc voilà, nous sommes très critiques sur cette coopération parce qu'elle a été prise à l'envers, elle a été pensée à l'envers dans le seul souci de finalement réduire le nombre de morts en mer. Peut-être, c'est le message officiel, mais la contrepartie ou la conséquence de cette approche, c'est qu'on augmentera corrélativement le nombre de souffrances et de personnes qui peut-être disparaîtront sur le territoire libyen. Certes, plus loin de nos yeux, mais complètement sous notre responsabilité.
Donc vous êtes très critique, vous l'avez dit vous-même, sur la politique migratoire de l'Union européenne. Alors quelles sont les solutions que vous proposez? Selon vous, qu'est-ce que l'Union européenne doit faire aujourd'hui pour redevenir crédible et vraiment reprendre ce rôle qu'elle doit tenir sur cette scène?
Il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a pas de solution unique à cette situation, qu'il y a un panel de choses à faire qui se déroule à la fois sur le court terme, le moyen, le long terme. Le court terme, c'est pour nous, il est impératif que l'Union européenne mette en place une opération multilatérale de sauvetage, de secours et de recherche de sauvetage en Méditerranée, comme c'était le cas il y a quelques années après la fin de l'opération Mare Nostrum conduite par l'Italie. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que la coopération européenne se fasse avant toute chose sur le respect des droits humains, plus que sur la formation de garde-côtes aux pratiques douteuses et aux liens également douteux. Et le dernier élément, c'est évidemment travailler à cette stabilisation de la Libye. Mais là, on voit que c'est vraiment du très long terme. Le quatrième élément que je n'avais pas évoqué en les annonçant, c'est aussi, il faut réfléchir à pourquoi ces personnes qui prennent la Méditerranée en sont là, en sont poussées à le faire. Et pour certaines d'entre elles, il faut réfléchir à l'ouverture de voies légales et sécurisées, délivrer des visas pour demander l'asile en Europe, ouvrir des programmes de réinstallation pour un plus grand nombre de personnes, des programmes d'admission humanitaire, comme ça puisse pratiquer ou se pratique encore pour les réfugiés syriens depuis le Liban, la Jordanie. Tout ça est faisable, tout ça existe déjà, mais est sous-utilisé, et ça fait partie de la réponse. Ce n'est pas une réponse unique, mais c'est un des éléments sur lesquels l'Union européenne doit travailler, plutôt que de s'enfermer dans cette logique de on repousse au plus loin de nos frontières la situation de ces personnes pour finir par ne plus les voir.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.